Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Metzia, page 105, Daf Kuf He. Bonne écoute et bon limoud.
Donc nous allons voir Amar Rava, Chada Iska ou Treshtare, Pseda de Malvé. Rava dit, s'il y a une seule marchandise, mais sur deux actes, sur deux contrats séparés, Pseda de Malvé. Cette situation amène le prêteur de la marchandise à des pertes. Et s'il y a deux marchandises différentes avec un seul contrat entre le propriétaire et celui qui va le mettre dans le commerce, Pseda de Lové. C'est ce dernier qu'on appelle l'emprunteur qui va perdre. Alors, ceci, ça a l'air assez énigmatique. Nous allons expliquer d'après Rashi ce que cela veut dire. Pour cela, il faut une petite introduction, c'est de savoir que, étant donné qu'il ne peut pas être permis pour des raisons de ribite, d'interdiction d'intérêt, de laisser le commerçant travailler pour une marchandise qui lui appartient en moitié, celle qui lui a été prêtée, et une autre qui ne lui appartient pas du tout, celle qui lui a été mise en dépôt, il ne peut pas ne pas être payé. Par conséquent, la règle que les Chachamim ont instituée, c'est que pour les pertes, il y a partage en égalité entre le propriétaire de la marchandise et l'emprunteur qui va les mettre sur le marché, mais pour les gains, celui qui le met dans le commerce, le lové, touchera les deux tiers, alors que le propriétaire ne touche qu'un tiers des bénéfices. C'est ainsi que l'Agmara dit dans Ezé ou Necher, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre ce qui a été dit ici. Donc, celui qui donne une marchandise, disons, deux colis d'habits pour 100. Et il écrit un seul shtar de 100. S'il perd de l'argent sur l'un des deux colis, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50, comme c'était le cas au départ, il y a une perte de 5, et que sur l'autre colis, il y a un gain de 15, on ne considère pas seulement qu'il y a d'un côté une perte et de l'autre côté un bénéfice. On considère que la totalité de la marchandise a gagné 10, c'est-à-dire les 15 qui ont été gagnés d'un côté, moins les 5 qui ont été perdus de l'autre. Par conséquent, le propriétaire de ces 10 dinarim, il touchera un tiers, c'est-à-dire 3 et un tiers. Tandis que celui qui l'a mis dans le commerce, il touche les deux tiers. Mais si on a écrit deux actes de commerce séparés, deux shtarot séparés, pour chaque colis valant 50, on devra faire le compte des pertes et des gains séparément sur chacun des deux colis. Par conséquent, en ce qui concerne la perte, le propriétaire doit assurer la moitié des pertes. C'est-à-dire, puisqu'il y a une perte de 5, il assurera une perte de 2,5. Et pour le bénéfice de l'autre, il ne prendra que le tiers. Donc il ne prendra que 5. Donc il a un gain de 5, qui est le tiers des 15 qui ont été gagnés par le deuxième colis. Il a une perte de 2,5, qui est la moitié de la perte de 5 du premier colis. 5 moins 2,5, ça fait qu'il ne bénéficie que de 2,5, alors que si on avait fait un seul shtar, il aurait bénéficié de 3 tiers. Il y a donc une perte pour le propriétaire. Inversement, deux marchandises différentes avec un seul shtar, la perte éventuelle sera aux dépens de l'emprunteur, c'est de celui qui fait le commerce. Disons qu'aujourd'hui, par exemple, il a reçu pour 100, et le demain, il reçoit une autre marchandise pour 100 également, et il écrit un contrat de Iska qui ne porte sur la totalité des deux marchandises, donc sur 200. Pourquoi est-ce qu'on dit que le lové va perdre? Comme on l'a expliqué, parce que s'il y a une perte sur l'une des marchandises et un bénéfice sur l'autre, on ne pourra pas faire le compte à part de chacune des marchandises, mais la perte de l'un compensera le bénéfice de l'autre. Et on ne fera le partage qu'après. Alors que s'il avait écrit deux actes séparés, on aurait pu faire un compte séparé pour les pertes d'un côté, et ces pertes auraient été supportées à moitié par le propriétaire, tandis que pour les bénéfices, le propriétaire n'en aurait eu qu'un tiers. Et donc, à la manière opposée de ce que nous avons dit précédemment, ici, c'est le lové, c'est-à-dire celui qui met la marchandise sur le marché, qui sera en perte par rapport au cas où il aurait fait deux contrats de shtarot différents. L'Amar Rava, Rava encore dit, Ayman de Kabiliska min Chavre ou Pasid, si quelqu'un a reçu une marchandise à vendre d'un propriétaire et que cette marchandise a perdu de la valeur. Et on parle du cas où Tarach ou Malia, le commissionnaire, s'efforce de récupérer la valeur. Malia, c'est il arrive devoir lui donner la valeur qu'elle avait au départ. Velo, il n'a rien dit au propriétaire lorsqu'il était en état de perte. La marchandise valait 100, ensuite elle ne vaut plus que 80, et suite à des efforts qu'a fait le commissionnaire, il la ramène à une valeur de 100. L'omatsi à Marley, le commissionnaire ne peut pas dire au propriétaire d'arrêt meher pseda, badaï, partage cette perte de 20 qu'il y avait il y a quelques jours avec moi, mishum da Marley, parce que le propriétaire peut lui dire le achitarart, le maliouté, pourquoi est-ce que tu t'es fatigué à faire que la marchandise retrouve sa valeur d'origine, sous-entendu sans m'en informer, qui est ri de lo likru lach mafsid iske. Tu ne voulais pas avoir une réputation d'être quelqu'un qui fait perdre la valeur aux marchandises. Et donc cet argument, puisque tu n'as pas voulu qu'on sache que c'était perdu avant que tu l'aies récupéré, est suffisant pour que je considère que je n'ai pas à partager la perte avec toi. L'Amar Rava. Rava encore dit, ané betre davde iska. Si deux personnes ont fait une affaire commune, beade adade, en s'étant associés, veravar, et qu'ensuite, il y a eu un bénéfice. Gamar le chad le chavre. Et l'un des deux associés dit à l'autre, ta, l'iflog, viens, nous allons partager tout de suite les bénéfices, sans attendre le terme du délai qui était prévu dans le contrat, à l'origine. Iamar Leïdar, si l'autre lui dit, Narvartfe, je préfère continuer et que nous gagnions davantage. Dinaou de Meakel, la loi est qu'il peut empêcher le partage d'être fait maintenant, c'est-à-dire avant le terme. Rava va expliquer pour quelle raison il peut l'empêcher. Iamar Leïdar, Palgaderamcha. Si l'un des deux associés dit à l'autre, donne-moi la moitié du bénéfice, Amar Leïdar, l'autre peut lui dire, Ravra le karna mishtabed, le bénéfice est asservi au capital. C'est-à-dire que si dans la suite de du temps, du délai de notre contrat, le capital venait à perdre de sa valeur, on devra le compenser avec le bénéfice que nous avons actuellement. Et pour l'instant, il n'est pas question de séparer le bénéfice provisoire du capital. Veillez à Marley, Avli Palga Ravra ou Palga Karna. Et si l'associé lui dit bon, alors partageons tout, donne-moi la moitié du bénéfice et également la moitié du capital de départ, à Marley, l'autre peut lui dire Iskala Adade Meshuban. Le contrat que nous avons fait entre nous nous oblige mutuellement, c'est-à-dire que chaque partie de la marchandise est asservie à l'autre. Viens à Marley, Niflok Ravra, Niflok Karna. Et si il lui dit partageons le bénéfice et partageons également le capital, Vei Matil Arpseda Darina Badar, et si jamais il y a une perte dans ta partie, je suis prêt à la supporter avec toi, et donc tu pourras récupérer de ma partie, a priori là ça devrait marcher, bien non. Amarle, l'autre peut toujours lui dire, s'il le veut, non, je ne suis pas d'accord. Mazala de Betre Adif, la chance que l'on a en étant associé est supérieure à celle que chacun d'entre nous séparément aura. Et donc, je ne suis pas intéressé, tant que le contrat n'arrive pas à échéance, à faire un partage, même avec ton engagement, de supporter la moitié des pertes éventuelles. Voilà, nous avons terminé pour cette Mishnah, et nous passons à la Mishnah suivante. Hamkabel Sadeh Mechavero, celui qui exploite le champ pour un autre, ici il s'agit uniquement du cas d'un fermier qui va payer un loyer sous forme d'une quantité de récolte fixe, Velo Ratsa de Nakesh, mais il ne veut pas arracher les mauvaises herbes, Ramarlo, et il dit au propriétaire du champ, Mark Patlecha, qu'est-ce que cela peut te faire? Oil Vani Notenlecha, et Chakricha, puisque je te paierai de toute façon l'intégralité de la somme de fruits que je te dois. En Shominlo, on ne tient pas compte de cet argument. Pourquoi ? Maintenant, chez Achol Lomarlo, parce que le propriétaire peut lui dire, le Mahar, demain, c'est-à-dire à la fin de ton contrat, Atayotsemimena, toi tu vas quitter le champ. Maale le Fanaya Savim, elle va être remplie de mauvaises herbes à cause de ton absence de nettoyage. Et d'après les uns, ce sera une perte de valeur du champ, d'après les autres, il aura beaucoup de difficultés à trouver un autre métayer. La Gemara va expliquer cette Mishnah. Si le fermier dit au propriétaire, après la récolte, je labourerai le champ, ce qui permet de retourner les racines des mauvaises herbes. Amarle, le propriétaire du champ peut lui dire, Chite malieta beina. Je veux la valeur du fermage avec des grains de blé de bonne qualité et pas des grains de blé qui soient de mauvaise qualité. Et si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, la qualité du blé sera inférieure, même si tu me donnes la somme qui était convenue. Via Marley, et si le fermier dit au propriétaire, Zavina lachite mishuka, je suis d'accord de te fournir la quantité de blé, non pas de ton champ, puisque la qualité sera peut-être inférieure, j'achèterai du blé au marché. À Marley, le propriétaire peut lui dire, je ne suis pas d'accord, Chite de Araï Baina, je veux que le loyer soit payé avec le blé de mon terrain. Via Marley, mais s'il lui dit, je suis prêt à arracher les herbes, mais uniquement sur la part du terrain qui correspond à la récolte que je te dois, mais pas le reste du champ, Amarle, le propriétaire du champ peut lui dire, Ka manasav tchemra le harai, tu vas donner mauvaise réputation à mon terrain, parce que les gens vont voir qu'il y a des parties qui ne sont pas désherbées. La Gemara objecte, Ve'atnan, pourtant une Mishnah, dit, notre Mishnah dit, Mipne Shema Alat le Fanaya Savim, c'est parce que il y a des herbes qui poussent, elle ne donne pas tous les arguments que la Gemara a expliqués. C'est pourquoi la Gemara va expliquer d'une autre manière. Et là, Mishumna Marle, Bizra de Nafal Nafal. En réalité, l'essentiel de l'argument que le propriétaire a, c'est à cause des herbes qui vont pousser. Le propriétaire dit au fermier, Bizra de Nafal Nafal, les graines des mauvaises herbes qui tombent dans le champ, elles y tombent et elles, plus tard, l'an prochain, feront pousser des mauvaises herbes. Et le fait que tu laboures ensuite ne servira à rien. Il faut immédiatement arracher les racines des mauvaises herbes, parce que non seulement il y a ces mauvaises herbes, mais également si tu les laisses, les semences qui vont tomber de ces mauvaises herbes et qui seront la garantie qu'il y aura de nouveau des mauvaises herbes en plus grand nombre l'année prochaine, et ça je ne le veux pas. On passe à une autre Mishnah qui cette fois-ci parle du cas d'un métayer et qui va se poser le problème de savoir est-ce qu'un métayer est obligé de travailler la terre même lorsqu'elle rapporte une quantité de fruits ou de moissons, de céréales très réduite. Hamekabel Sademe Chavero. Celui qui a pris sur lui de travailler le champ d'un autre, lo asta, et elle n'a pas produit grand-chose. Im yeshba kedela amit keri, si malgré tout la récolte est suffisante pour pouvoir faire un tas avec la récolte, chayav le tapelba, le métayer est obligé d'entretenir le champ. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit mai kitzva bekeri. Qu'est-ce que cette mesure de dire un tas? Ceci ne peut pas être valable pour un champ tout petit et aussi pour un champ très grand. Il faut sûrement plus pour un grand champ que pour un petit champ. Et là, imieshba kedenefida. Nous pensons autrement qu'il est obligé d'entretenir le champ dans la mesure où elle aura produit une quantité de céréales ou de produits qui soit suffisant pour qu'on puisse re-ensemencer le champ l'année suivante à partir de la récolte. Par contre, si on n'arrive pas à ce niveau de production, il n'est pas obligé de continuer à la travailler. La Gemara commence avec Tanou Rabanan. Nous avons appris dans une Braïta, Amekabel Sade Mechavero, Celui qui prend en métayage le champ d'un autre, veloasta, et elle a produit très très peu de céréales, im yeshba kedela mitkeri, s'il y a cependant suffisamment pour faire une meule, un tas, chayav le tapelba. Il est tenu de s'occuper de ce champ. Pourquoi? Chez kar kotevlo, parce qu'ainsi ont l'habitude d'écrire les métayers dans le contrat, ana okim ve'anir, je m'engage à labourer, ve'ezra, et à semer, ve'chetzod, et à moissonner, ve'amer, à mettre en gerbe, ve'adouche, et à fouler le grain, ve'hydré, et ensuite à le vanner pour séparer la balle des grains proprement dit, ve'okim karia kodamar, et je mettrai devant toi, à ta disposition, une meule de grains. Tu viendras et tu prendras la moitié. Dans le cas, évidemment, où il s'agit d'un contrat à la moitié. On a vu qu'il y a des contrats au tiers ou au quart. Ici, il s'agit d'un contrat de la moitié. Et moi, de mon côté, en paiement de ma peine et de mes dépenses, palga, l'autre moitié. Et puisque le métayer est tenu de faire une meule, il s'y est engagé. Si effectivement la production est suffisante pour qu'une meule en soit retirée, il est obligé de travailler. L'Agmara va expliquer de quoi il s'agit exactement. Kamakdela amid bakeri. Qu'est-ce qu'on appelle la quantité de grains suffisante pour faire un tas, une meule? Amar Yossi Rabbi Chanina. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Chanina, a dit que deshtamot bo arachat. Il faut que la pelle qui sert à retourner le grain et que, en fait, un vannet puisse tenir debout dans le tas. Il baille là-haut. On s'est posé la question suivante. Rachat ayotse maïgissa laïgissa. Maï. Si cette pelle va d'un côté à l'autre, mais qu'on voit les deux extrémités de la pelle, c'est-à-dire la partie large de la pelle qui sert à retourner les grains au moment où on veut les vanner. Maï, quel est le din? L'agma répond. Tashma, viens, on va apprendre. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a enseigné le didi mefarshali miné de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Voilà comment on m'a expliqué de la bouche même de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina le shiur en question. Kol she'en akoneh shelo ro'eh pnei chama. Tant que la partie large de la pelle ne littéralement ne voit pas le soleil, c'est-à-dire être complètement recouverte par le tas de blé, ça s'appelle une quantité suffisante. Si par contre la pelle tient debout, mais qu'elle n'est pas recouverte, que les coins de la partie large sont visibles, le tas n'est pas suffisant. La Gemara amène d'autres estimations de la taille de la meule de grain, du tas de grain. Itmar, il a été enseigné, Lévi Amar, Shalosh Shrin. Lévi dit, il faut qu'il y ait 3 CA, qui est une mesure de céréales. Debe Rabbi Yanaï Amre, la Yeshiva de Rabbi Yanaï dit, Sataim, il suffit qu'il y ait 2 CA de récolte, de grains récoltés, pour que cela s'appelle un tas de grains suffisant pour justifier le travail du Haris. Comment on va expliquer? Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous a expliqué, Sataim Shamru, Chutz Milaotza. Attention, les deux mesures de blé dont nous parlons, c'est une fois qu'on a déduit, qu'on a enlevé le blé qui était nécessaire pour faire la contre-valeur des frais qu'a engagé le haris pour pouvoir faire la récolte. Donc le haris retire ses frais et le reste doit représenter sataïm, c'est-à-dire 2 CA. L'agma m'évite d'autres shiurim qu'on a expliqués dans les shivas de Rabbi Yanaï. Nanatam, on a enseigné dans une mishnah qui est dans la Maseret Oktsin, Pritze Zetim, va anavim. Il s'agit ici de certaines olives et de certains raisins. Met shamay metamein ou met ilel metaharin. Met shamay disent qu'ils sont susceptibles de devenir impurs comme n'importe quel autre aliment. Tandis que met ilel dit qu'ils ne sont pas arrivés à un stade où ils puissent être susceptibles de recevoir la touma à titre d'aliment. Alors, Maï Pritse Zetim. L'Akbar demande, qu'appelle-t-on Pritse Zetim? Amar Ravuna répond, Rish'e Zetim, des olives méchantes. c'est une catégorie d'olive qui n'est jamais mûre. Et puisqu'elle ne mûrit jamais, c'est pour cela que Beth Hillel pense qu'elles ne doivent pas être considérées comme des aliments et ne peuvent pas recevoir la Touma. La Gemara amène un pasouk à partir duquel on va justifier que le terme de paritz veut dire rachat. Amar Rav Yosef, on va avoir deux réponses. Amar Rav Yosef, ou Maïkra, quel est le verset? Il cite un verset de Daniel dans le chapitre 11, le pasouk 14. Venez paritze amcha inaseu la amin chazon venir chalou. Les fils mal intentionnés de ton peuple s'élèveront et essayeront de faire croire qu'ils ont eu une vision prophétique, mais ils trébucheront et mourront. Donc on voit là-bas le mot paritze qui veut dire ceux qui sont méchants. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, proposition de Rav Nachman Bar Yitzchak, un autre pasouk, Me'acha, ça vient de là, c'est un pasouk du 18e chapitre de Yeheskel, verset 10, Ve'olid ben paritz soferdam, celui qui était un tzadik a mis au monde un fils racha qui verse le sang. La Gemara demande Chama paritze zetim, quel est le degré de maturité maximum pour lequel les olives insuffisamment mûres s'appellent encore peritzes etim, et donc d'après Beth Hillel, elles ne seront pas susceptibles de devenir impures. La Gemara amène deux avis. Rabbi Elazar Amar, Arba'at Kabid le Kora. Kora, c'est une poutre très très lourde que l'on met dans le pressoir à olives pour écraser les olives afin d'en extraire l'huile. Et donc si l'on rentre quatre mesures de ces olives dans le pressoir et qu'il n'en sort pas plus que quatre cabines d'huile, cela veut dire que ces olives ne sont pas mûres. Elles s'appellent pritzes etim. Le Be'er Abianai Ama Amre. Par contre, les Talmidim de la Yeshiva de Abianai disent Sataim la Korah. Il faut qu'il ne sorte que deux CA d'huile lorsqu'elles sont mises, lorsqu'on remplit le pressoir et qu'on les met sous la poutre qui doit les écraser, enfin sous le pressoir. La Gemara va expliquer. Velo pligé. En vérité, il n'y a pas de désaccord entre Rabbi Elazar et les Talmidim Rabbi Anaï. Ha, be'atradim alié kora be'oulela. L'avis de Rabbi Elazar est dit dans les endroits où on ne met qu'une seule mesure de un cours d'olive dans le réservoir du pressoir qui est sous la poutre. Ah, tandis que l'avis de la Yeshiva de Rabbi Anaï, Beatra de Mali et Tlata Kourine Beoulela. C'est un endroit où on met trois fois plus, c'est-à-dire trois courines d'olive dans le réservoir du pressoir. Apparemment, le pressoir n'avait pas la même taille. Et par conséquent, on ne peut pas comparer directement les deux avis, il faut les prendre en proportionnalité. L'Agma amène une autre Mishnah qui a été expliqué dans la Yeshiva de Rabbi Anaï. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Nous passons maintenant au Hamoud Bet du Daf Koufé.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Qui a été expliqué dans la Yeshiva de Rabbi Anaï. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Nous passons maintenant au Hamoud Bet du Daf Koufé. Nous tournons la page. Alors, il s'agit d'une Mishnah qui se trouve dans la Maseret Zavim. Alou ve ilan shekochora. Ou ve socha shekochara. Tamé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui a une impureté due à un écoulement qui s'appelle Zov, et donc la personne qui a cette impureté s'appelle un Zav, et ce monsieur qui est Zav, avec un autre qui est pur, sont montés ensemble sur un arbre qui était peu solide, Kochora, Ilan chez Kochora, et à cause de cette absence de solidité, l'arbre s'est penché, ou Socha chez Kochara, ou bien ils sont montés sur une branche qui était peu résistante, même si l'arbre lui-même était très solide, Tamé, celui qui était pur devient impur, étant donné que l'arbre lui-même ou la branche s'est penché sous leur poids commun. Ce qui veut dire que celui qui est au-dessus s'appuie sur celui qui est en dessous. Et le fait de s'appuyer sur celui qui est en dessous amène la transmission de la Touma. La Gemara demande, Ridami, Ilan Chekochora, comment va-t-on apprécier le fait qu'un arbre soit considéré comme étant peu solide? Amré de Berabianai, Les élèves de la yeshiva de Rabbi Yanaï ont répondu « Kol she'en be'ikaro la hok rova » Tout arbre dont on ne peut pas tailler virtuellement dans la base du tronc un rova, c'est-à-dire le quart d'un cave, est considéré comme un arbre peu solide. La Gemara va plus loin. « Echidami socha shekochara » Comment va-t-on mesurer ou estimer qu'une branche est souple, qu'elle n'a pas de résistance? Amaresh Lakish, Resh Lakish a dit, Kol shenichbet bechezona. Toute branche qui est suffisamment mince pour que celui qui la saisit puisse la cacher entièrement dans la paume de sa main. Autre Mishnah qui va être expliqué d'après les Talmidim de Rabbi Yanaï.
Il s'agit d'une Mishnah de la Maseret Ohalot. Amealer bevetapras. Alors, betapras, il s'agit d'un champ dans lequel il y avait des ossements et ce champ a été labouré. Et donc, le problème va se poser du risque de devenir impur en passant au-dessus d'un fragment d'os qui est quelque part dans ce champ. Alors, amealer bevetapras, celui qui marche dans un tel champ, Al-Gabé Avanim Shechol Lassit, au-dessus de pierres qu'il peut déplacer. Il s'agit de pierres donc qui ne sont pas enfoncées dans le sol de façon ferme et fixe, et qui peuvent bouger lorsque l'on marche sur elles. Et on a peur qu'en dessous se trouverait un morceau d'os. S'il est gros comme une lentille, il rend impur celui qui l'aura déplacé. Al Ha'adam Ve'alabema Shekochanra. Ou encore, s'il se déplace sur un homme ou sur un animal qui sont peu solides, qui n'ont pas vraiment de force, tamé, celui qui marche ou celui qui est au-dessus de l'animal devient impur. La Gemara va expliquer la Mishnah et elle demande « Chidami Adam Shekochora ». Comment va-t-on définir qu'un homme est faible ?« Amar Resh Lakish » Resh Lakish répond, Kol Shirochvo Akuvotav Nokshot. Tout celui qui, lorsqu'il porte un homme sur lui, sur ses épaules ou sur son dos, il n'est pas assez fort et Akuvotav, ses genoux, Nokshot se cognent l'un à l'autre. Donc c'est celui qui est le porteur dont les genoux se cognent l'un à l'autre. Dans ce cas-là, il est considéré comme Kohora, comme étant faible, et celui qu'il porte au-dessus de lui deviendra également tamé. La Gemara continue à demander Ridami Bema Shekochara, comment va-t-on définir que l'animal est faible? Amrei de Rabbi Yanaï, les Talmidim de la Yeshiva de Rabbi Yanaï ont répondu Kol Sherochva ou Matila Glalim. C'est un animal qui, à cause du poids de la personne qu'elle porte, elle se met à rejeter des excréments, et ceci est causé par la charge qu'elle porte. Dernier enseignement de la Yeshiva de Rabbi Yanaï, Amrei de Rabbi Yanaï, on a enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Yanaï, Litfila ve Litfilin Arba'a Kabin. Pour la Tfila et pour les Tefilin, la charge est de 4 cabines. On va expliquer le premier dit. Litfila Maï, qu'est-ce que ça veut dire pour la Tfila? De Tanya, une Braïta nous enseigne. Anose Masoy al Ktefo, celui qui a une charge sur l'épaule, Vegi Azman Tefila, il arrive le moment de faire la Hamida. Pachot Merba Kabin, si la charge qu'il a sur l'épaule représente moins que 4 cabines, Mafshila Nachorav, il peut les mettre sur l'arrière, il les met en arrière pour ne pas être trop encombré, ou Mitpalel, et il peut faire la tfila en gardant le fardeau sur son épaule. On considère qu'une telle charge ne l'empêchera pas d'avoir la kavana, la concentration nécessaire pour sa prière. Aval, Arba Kabin. Mais si ça dépasse les 4 cabines, Maniach al-Gabe Karka ou Mitpalel, il doit le poser son fardeau par terre et ensuite faire la tefila. C'est ainsi qu'on explique, donc, Arba, Kabin et Tfila. Deuxième din, Litfilin Maï, qu'est-ce que ça veut dire pour les Tfilin? De Tanya, une braïta enseigne, Ayano Semasoyal Rosho ou Tfilin Rosho, celui qui avait une charge sur sa tête et qui avait également les Tefilin sur sa tête. N'oublions pas qu'à l'époque de la Gemara, les hommes devaient mettre les Tefilin toute la journée. Imayut tefilin rotsetsot. Si les tefilin sont écrasés, assourds, il est interdit de porter cette charge sur la tête. Il doit enlever les tefilin. Vimlav, et sinon, c'est-à-dire si la charge est suffisamment légère ou qu'elle ne touche pas les téfilines, Moutard, il a le droit de continuer à porter ce fardeau en gardant les téfilines. Et là-dessus, les Talmidim de Rabbi Yanaï viennent dire, Bezou Masoy Amrou, de quelle charge s'agit-il et à partir de laquelle on considère qu'il y a un risque d'écrasement des téfilines, mais Masoy c'est l'arba cabine. Arbaat cabine. Il s'agit d'une charge de 4 cabines. Donc moins que cela, on peut les garder malgré le fait qu'il ait les téfilines sur la tête. On continue à parler de ce problème de charge sur la tête en même temps que les téfilines. Tana Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné dans une baïta à Motsi Zevel al Rosho. Ou téfilin de Rosho a rezé lo yesalkem nitzdadin. Celui qui porte des déchets sur la tête, ou des déchets, du fumier sur la tête, et il a les tefilines sur la tête, il ne doit pas enlever les tefilines sur les côtés, et il ne doit pas non plus les attacher autour de sa taille, parce que c'est une manière méprisante de se conduire vis-à-vis des tefilines. Aval koshra malzro. Mais par contre, il pourra attacher cette téfiline, il s'agit de celle de la tête, n'est-ce pas, sur son bras, bimkom téfiline, à l'endroit où sont mises les téfilines du bras. Une autre opinion concernant une charge qu'on a sur la tête lorsqu'on a déjà les téfilines. Mishum de Beshila Amrou. Au nom de la yeshiva de Rabbi Shila, on a répondu. Afilu amit pachat shelahen, afilu mit pachat shelahen, asur laniach la roche yesh bo téfiline. Même le sachet des téfilines, le sac dans lequel on met les téfilines lorsqu'on les enlève, on n'a pas le droit de le mettre sur la tête lorsqu'on porte les téfilines. La Gemara dit Vechama. D'après la yeshiva de Shila, quelle serait la charge maximale qu'on ait le droit de porter sur la tête? Amar Abaye. Abaye a répondu Afilo riva de pombedita. Même le quart du poids que pèse le revi'it de litra, qui était une mesure de pombedita, et le quart du quart représente quelque chose de très réduit. D'après Rashi, le litra, c'est la moitié d'un log, et donc le total, ça serait donc un 32e de log. Donc c'est pas grand-chose. Et il serait donc interdit d'avoir une charge, même faible, sur la tête en même temps que les téfilines. La Mara va revenir maintenant à la discussion qu'on avait dans notre Mishnah concernant la quantité minimale qui doit être produite par un champ pour que le métayer soit obligé de continuer à travailler ce champ. Ce qu'on avait vu à la page au Hamoud précédent. Amar Rabbi Yehuda, Maïkitsua Bikri, c'était ce que la Mishnah disait, deuxième avis. Rabbi Yehuda dit, quelle est cette mesure qui est donnée par une meule? Et là, il faut, pour qu'il soit obligé de travailler le champ, qu'il puisse récupérer de quoi ensemencer le champ. La Gemara va dire exactement ce que Rabbi Yehuda veut dire par là. Le chama kede nefila. Quelle est la quantité de récolte moissonnée pour que ça s'appelle kede nefila? Rabbi Ami Amar, Rabbi Yochanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, Arba'a se'in l'chor.
C'est-à-dire que sur une surface qui normalement devrait faire pousser un corps de moisson, ce qui représente 30 séines, il n'en est effectivement sorti que 4 séines. 4 au lieu de 30. Et Rabbi Ami dit, Rabbi Ami en ce qui le concerne, Amar, il a dit, non pas au nom de Rabbi Yochanan, mais de son propre avis, Shmonat séines le corps. 8 séines au moins, quand même, au lieu du corps, au lieu des 30 séas qu'il aurait dû produire normalement. La Gemara va expliquer qu'il n'y a pas de discussion entre les deux avis. Amar Léa ou Saba, le Rav Chama Bered Rabba Baravoua. Un homme âgé a dit à Rav Chama, le fils de Rabba Baravoua, à Sabrelach, je vais t'expliquer. Mishneh de Rabbi Yochanan Avash Menahara. À l'époque de Rabbi Yochanan, dont on a dit premier avis, la terre était très fertile. Et donc il suffisait de 4 séines pour arriver à planter et obtenir les 30 séines, le cours de récolte. Aval Bishneh de Rabbi Ami,
Tandis qu'à l'époque de Rabbi Ami, Avak Richar, la terre était maigre, littéralement, c'est-à-dire elle était peu fertile, et il fallait davantage de semences pour pouvoir récupérer le corps l'année suivante. La Gemara amène une Mishnah traitant d'un autre sujet, où on utilise également l'expression de Kedé Nefila, Nanatam. On a enseigné là-bas, c'est une Mishnah du 5e Perek de la Maseret Pea, à Rouar chez Pizra et à Omarin, lorsque le vent a dispersé des gerbes. Et ces gerbes ont recouvert le leket, c'est-à-dire les épis tombés qui appartiennent aux pauvres, qui étaient dispersés dans le champ. On ne sait donc pas combien de leket, combien d'épis sont tombés en dessous des gerbes. Alors, omdim ota, kama leket rouya laasot. Le Bedin aura fait une estimation combien ce champ pouvait produire d'épis tombés, normalement, venoten anim, et c'est cette quantité qui sera attribuée aux pauvres. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, noten anim que des nefilas. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel dit, c'est pas la peine de faire une estimation, on donnera aux pauvres une quantité fixe qui s'appelle que des nefilas.
Nous reprenons la Gemara d'Afkouf He, Amoud Bet, la citation de la Mishnah précédente, Amar Rabbi Yehuda Maïkitsov écrit. Rabbi Yehuda dit, comment peut-on fixer forfaitairement avec une meule de récolte, qui sous-entendu ne peut pas être la même quantité pour un grand champ où il y a beaucoup de travail que pour un petit champ, il faut prendre quelque chose de proportionnel. Et là, imiège bo que denefila. Il faut qu'on retrouve ce qui a été semé. Le rama que denefila. La Gemara demande combien c'est la quantité qui correspond à ce qui a été semé ou ce qui va permettre d'ensemencer l'année prochaine. Rabbi Ami Amar, Rabbi Yochanan. Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yochanan, Arba'a se'in le cour. 4 se'a par chor. C'est-à-dire, en fait, 4 trentièmes de la quantité que l'on pouvait normalement attendre. Rabbi Ami dit, Léa marche, monat, c'est in le chor. Rabbi Ami, pour sa propre part, il a une opinion personnelle différente, 8, c'est in par chor, c'est-à-dire 8 trentièmes de chor, le double de ce que disait Rabbi Yochanan. La Gemara va nous expliquer qu'il n'y a pas réellement de divergence entre ces deux opinions. Amar le Aou Saba le Rav Chama Bere de Rabba Baravou. En effet, il y a un Talmid Chacham âgé, un grand-père, qui a dit à Rav Chama, le fils de Rabba Baravou, à Savra alors, je vais t'expliquer la différence entre ces deux versions. Mishneh de Rabbi Yochanan, à l'époque de Rabbi Yochanan, qui est une époque ancienne, Havash Mena Ara, la terre était fertile et elle produisait davantage. Mishneh de Rabbi Ami, à l'époque de Rabbi Ami, qui est son Talmid, Avak Rishahara, la terre avait perdu de sa vigueur. Et il fallait le double en quantité de semences pour obtenir la même récolte de un chor. Nanatam. La Mara nous amène une autre Mishnah où on parle de Kedé Nefila. C'est une Mishnah du 5e chapitre de Péa, et dans laquelle on parle de la mitzvah de Leket. Lorsque on moissonne les épis qui tombent, s'appellent Leket, ce que l'on glane, et ils sont réservés aux pauvres. Et alors il s'est passé la chose suivante, à Rouar chez Pizra et à Omarine. On ne peut pas savoir quels sont les épis qui sont tombés parce qu'un vent est venu, il a dispersé toutes les gerbes qui avaient été entassées et elles ont recouvert les épis tombés par terre. Omdim ota. On va faire une estimation. Kamal leket ruya la asot. Combien elle peut avoir produit d'épis qui sont tombés pendant la récolte, noten la anime. C'est cela qu'on donne aux pauvres. Rabban Shimon ben Gamliel Omer noten l'anim que des nefila. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'est pas nécessaire de faire une estimation, on peut le mesurer proportionnellement. C'est que des nefila, c'est la quantité qui est nécessaire pour ensemencer le champ. Le Kama que des nefila, combien c'est que des nefila? Qui a ta Rav Dimi à Rabbi Elazar? Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Veitem à Rabbi Yochanan, et d'autres disent, il a dit cela au nom de Rabbi Yochanan. Arbaat kabin le chor. C'est 4 kabines pour un chor de récolte. Alors, nous allons voir quel est le chor en question, ça va être discuté. Mais pour l'instant, retenons quand même que 4 kabines par rapport à un chor, c'est 4 sur 180, c'est-à-dire à peu près un 45e du chor qui est obtenu sur ce champ. Rabbi Irmeya a posé la question suivante. Est-ce qu'il s'agit d'attribuer à titre de l'équette aux pauvres, 4 kabines par rapport à un corps zéra de ce que l'on a ensemencé, on le corte voit par rapport à un corps qui a été moissonné, ce qui ne donne pas du tout les mêmes proportions. Le mapolet yad, le mapolet soarim. Et si tu dis, ce qui semble plus probable, qu'il s'agit de 4 cabines pour chaque ror de semences, de ce qui a été utile pour ensemencer cette partie du champ, le mapolet yad ou le mapolet soarim. S'agit-il de la quantité de semences qui a été utilisée pour faire des semailles à la main, ou bien pour faire des semailles avec des bœufs? Et Rashi explique qu'on avait un chariot qui était percé, que les bœufs traînaient et qui servait aux semailles, et que ce système utilise beaucoup plus de grains pour semer une même surface que le système manuel. Alors la Gemara ne répond pas directement. Tashma vient et apprend de Riati Ravin, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Elazar, il a dit au nom de Rabbi Abou, qui a dit lui-même au nom de Rabbi Elazar, Vamrila, d'autres disent, Amar Rabbi Yochanan, que ceci a été dit au nom de Rabbi Yochanan, rapporté par Ravin au nom de Rabbi Yochanan, Arbaat Kabin Lechor Zera. Il s'agit effectivement de 4 cabines pour un corps de ce que l'on sème. Vadaïn Tibaelach, mais il nous reste encore une question non résolue. Le Mapolet Yad ou le Mapolet Soarim. S'agit-il d'un corps de grains utilisé pour les semailles faites à la main ou faites par le système où c'est traîné par des animaux dans un chariot percé? Tekou, la Gemara n'a pas de réponse, on reste dans le doute. Nous abordons une Mishnah suivante. Amekabel Sademe Chavero Vachala Hagav O Nishdefa. Il s'agit là encore d'une Mishnah qui ne parle que du cas d'un fermier qui paye une quantité fixe indépendante de la récolte. Et alors il a pris sur lui donc de faire pousser les champs de son prochain contre un forfait Vachala Hagav, et la récolte a été dévastée par des sauterelles. Au niche de fa, ou encore un vent a détruit tous les épis. Imma kat medinaï, si cette catastrophe concerne toute la région, on verra dans la Gemara de quoi il s'agit exactement, mais nakelo min chakoro, il a le droit de déduire de son loyer ce qu'il a perdu par rapport à la récolte normale de ce champ. Imena makat medina, mais s'il ne s'agit pas d'une catastrophe régionale, sous-entendu que son champ est le seul à avoir eu cette difficulté ou cette destruction, El Menakelo Min Chakoro, il n'a pas le droit de donner une quantité de récolte inférieure à celle à laquelle il s'était engagé au départ. La Gemara expliquera qu'en effet, on considère que c'est la malchance du fermier qui peut être considéré comme étant responsable de ce manque de rendement. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, « Im kibla emeno bemaot » Si le loyer qui a été fixé n'était pas, contrairement à l'habitude, une quantité de récolte, mais qu'elle était faite en argent, « Benkar ou Benkar » dans tous les cas, sous-entendu même s'il s'agit d'une catastrophe régionale, « Eno menakelo mechachoro » il n'a pas le droit de déduire par rapport à son loyer. On considère qu'il n'y a plus de lien entre la production du champ et l'obligation qu'il s'est donnée de payer un loyer déterminé à l'avance. L'Agmara va chercher à comprendre qu'est-ce qu'on appelle une makat medina. Echedame makat medina. Dans quel cas dit-on que la catastrophe qui a détruit la récolte est considérée comme une catastrophe régionale? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda donne une explication. Que gondei shadouf ruba de vaga. Il s'agit que la majorité des champs qui sont dans la même plaine, où figure le champ en question, ont été également victimes de la même catastrophe. Oula Amar, Oula donne une autre explication. Il s'agit que les 4 champs qui entourent le champ en question, dans les 4 directions cardinales, ont également été atteints par la même plaie, la même catastrophe, sans prendre en compte les autres champs. La Gemara va se poser des questions pour définir exactement de quoi il s'agit. Amar Oula, donc Oula lui-même, par rapport à son explication des 4 champs qui sont autour du champ considéré, il nous rapporte Baou Bemaharava. On a posé en Eretz Israël, à l'ouest littéralement, qui Eretz Israël est à l'ouest de la Babylonie. Nishdaf Telem Echad Alpenekula. Si une seule rangée de moissons de tous les champs qui entourent le champ en question, mais une rangée continue, Alpenekula, qui fait tout le tour du champ, a été détruite. Maï, comment allons-nous le considérer ? Dit-on que tous les autres champs autour ont été abîmés, ou comme c'est une seule rangée, ça ne suffit pas. Nishtayer Telem Echad Alpenekula Maou. Et si, à l'inverse, tous les autres champs ont été détruits, mais il est resté dans le champ alentour, dans les champs alentour, une rangée qui est intacte et qui fait tout le tour du champ en question. Allons-nous dire que c'est une Makat Medina, que c'est un problème régional ou non ? Autre question posée en Israël, Afsika Bera. Si les champs qui sont immédiatement à côté de ce champ sont non cultivés. Et évidemment, on ne peut rien voir sur des champs qui ne sont pas cultivés. Il n'y a pas eu de moisson, il n'y a pas eu de production, donc on ne peut pas savoir si elle a été victime de la catastrophe. Quel sera le dîn ? Est-ce que nous dirons que s'ils avaient été plantés, ils auraient sûrement été atteints, ou bien que non, on n'a aucune preuve et qu'il faut qu'ils remboursent. Et puis, encore une autre possibilité qui est intermédiaire. Aspasta, Maï, quel va être le dîn si on l'a planté avec du fourrage ? Alors le fourrage, c'est un genre de céréales que l'on coupe quand il est jeune et que l'on donne en alimentation au bétail. Et par conséquent, au moment où on aura récolté du champ, les champs alentours qui étaient plantés en fourrage ne portaient pas de production parce que celle-ci avait été coupée. Alors dirons-nous que si ça avait poussé, ça aurait été détruit, ou bien dirons-nous que non. Et si on dit que ça aurait été détruit, ça veut dire que c'est Makat Medina. C'est un problème régional et donc il peut être avoir le droit de déduire, le fermier peut déduire de ce qu'il doit la perte.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.